Bonsoir. Mon nom est Catherine Doré et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'émission La Voix de la librairie, enregistrée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec. Alors, La Voix de la librairie, c'est d'abord une émission littéraire, mais au fil des mois qui passent, elle devient de plus en plus une émission thématique. Alors, voilà comment ça se passe. La librairie, ben, c'est une librairie, évidemment, mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Et au fil des discussions, à un moment donné, on se dit, tiens, ce serait intéressant de parler de ça à la prochaine émission. Puis, ben, c'est ce qu'on fait. Et donc, ce mois-ci, je dis ce mois-ci parce que l'émission est enregistrée une fois par mois, le premier lundi du mois. Donc, ce mois-ci, on va parler de révolution. Et ça tombe bien parce que nous sommes le 5 novembre aujourd'hui. Puis, je vais vous expliquer en fin d'émission pourquoi cette date convient si bien au thème de la révolution. Quand on parle de révolution, on a tout de suite des images de gens armés de bâtons ou de pierres qui entrent de force dans un bâtiment gardé par des soldats. Mais à part la Révolution française ou la Révolution américaine ou la Révolution cubaine, à part les renversements de pouvoir politique, il y a toutes sortes de révolutions. Il y a des révolutions culturelles, sociales, artistiques et même scientifiques. D'ailleurs, dans le Larousse, la première définition du mot « révolution » réfère à l'astronomie. On dit qu'il s'agit du mouvement orbital périodique d'un corps céleste. On donne aussi une autre définition. On dit qu'il s'agit d'un changement brusque d'ordre économique, moral, culturel, qui se produit dans une société. Alors, ce soir, nous, on va plutôt s'attarder à cette deuxième définition du concept de révolution. Alors, je vous présente mes invités. D'abord, Anne-Julie va nous expliquer de quoi on parle exactement quand on parle de la révolution verte, qui est bien sûr une révolution qui a eu lieu dans le domaine de l'agriculture. On va ensuite parler avec Alex, qui va nous faire un exposé sur l'art contemporain, en rupture avec la notion de révolution. Finalement, Xavier va nous introduire l'histoire d'un Grec qui se nomme Panagoulis et qui a participé activement à la lutte contre la dictature des colonels en Grèce, évidemment. Mais avant de plonger dans notre thème du mois, nous allons commencer l'émission avec une entrevue événement du mois. C'est qu'à chaque émission, j'accueille un invité qui vient présenter une activité qui va avoir lieu à la librairie durant le mois. Alors, on va faire une petite pause musicale et nous accueillerons ensuite Claude, notre invité du mois. Écoutons Léo Ferré dans un texte d'Aragon, « Je chante pour passer le temps ».
Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles pleins les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe, à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Pour passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Alors, c'était « Je chante pour passer le temps », un texte de Louis Aragon chanté par Léo Ferré. On accueille maintenant Claude. Bonsoir, Claude.
Bonsoir.
Claude, tu viens de présenter ce soir une soirée de poésie qui va avoir lieu à la librairie Saint-Jean-Baptiste le 23 novembre prochain à 19h30. Tu es poète toi-même. Est-ce que tu peux nous dire pour toi c'est quoi la poésie?
Bien, pour exprimer une définition de la poésie, j'utiliserai les mots de Jean-Noël Pontbriand, qui écrivait « Écrire, c'est bâtir sa propre maison avec des mots. Prendre des mots anonymes et les rendre habitables, porteurs de sens, de chaleur et de lumière, sans nier leur mystère. Écrire, écrivait-il, c'est tenter de donner parole à l'autre, permettre à l'ailleurs de refluer jusqu'ici en imposant son rythme et sa présence. » Ça donne une idée.
Et c'est de?
Jean-Noël Pontbriand.
Jean-Noël Pontbriand.
Très connu à l'Université Laval.
D'accord. Et c'est ce que tu vas venir faire ici, donc, le 23 novembre. Le spectacle s'appelle « Sept frères en poésie ». Pourquoi?
Ben, j'avais le choix. David m'avait demandé de faire peut-être une soirée de poésie une fois par saison.
Ah, d'accord.
Et la dernière fois, il y avait 18 poètes qui sont venus lire leurs textes. La salle était pleine, d'ailleurs. C'était très agréable. Et là, j'ai commencé par penser à trois poètes dont j'aimerais écouter la parole. Et finalement, il y en a eu cinq et on s'est rendu jusqu'à sept. Et Jean Coulombe, qui est parmi ces poètes, a dit, tiens, ça, un bon thème, ce serait « Sept frères en poésie
». C'est très bien.
Alors, j'ai contacté tout le monde semble d'accord et c'est parti pour bientôt, le 23.
Donc, c'est toi qui es à l'initiative de cette soirée-là.
Oui, oui.
Toi, tu fais de la poésie depuis longtemps?
Depuis que je suis très jeune.
OK.
Oui, et comme je suis presque très vieux, ça fait longtemps. Mais ça fait seulement 8 ans que je suis revenu à Québec et c'est depuis ces 8 ans que je mets plus de temps dans cette création.
Dans cette expression artistique. Tu peux nous parler un petit peu de tes invités du 23 novembre?
Je vais les nommer, mais par ordre du hasard. Il y aura Pierre Lavallée, Denis Sanson, Michel Plot, Jacques Ouellette, Carole Lebel, Jean Coulombe et moi-même.
Et ce sont tous des gens qui font de la poésie depuis longtemps, j'imagine? Ce sont tous des poètes de Québec ou...
Oui. Okay. Oui, je pourrais peut-être parler de chacun un petit peu.
Oui, ce serait agréable, oui, tout à fait.
Alors, comme je dis, je commence au hasard et non pas par le plus important. Il n'y a pas d'ordre d'importance, vraiment. Bien, Pierre Lavallée est très connu à Québec, qu'on appelle un poète performeur. Il a publié quelques recueils aux éditions Croque-Mot et un recueil à compte d'auteur. Ça fait une dizaine d'années qu'il participe aux soirées de poésie à Québec. Et il s'adonne depuis quelques années au slam.
Ah oui?
Le slam poésie, qu'on appelle.
Oui, oui, oui.
Pour vous donner une idée de qui est Pierre, je me permettrai de vous citer un extrait de son dernier recueil qui s'intitule « Avant de partir ».
Avec plaisir.
Juste quelques vers. Ce matin-là, pour la première fois de ma vie, mon corps me lève et me met debout. J'attends un peu pour voir. Mon bras gauche s'étire et traverse le mur. Et ça continue.
C'est un univers, hein?
Alors, je me permets de citer Marc Boutin.
Marc Boutin, c'est un autre de vos invités?
Non, Marc Boutin, je pense qu'il écrit dans des journaux ici à Québec.
OK, c'est une critique.
C'est une critique. C'est plus un commentaire.
Un commentaire.
Une présentation.
D'accord.
Ça exprime bien le personnage. Il dit « La poésie de Pierre Lavallée nous fait voyager dans le périlleux triangle des barmaids du très prosaïque nightlife de Québec. Pour paraphraser l'auteur, disons que l'originalité de ce triangle, c'est d'avoir trois bars. Le bord de la solitude des à côté du comptoir qui sont occupés à boire, le bord des trottoirs où le soir on regarde par les fenêtres pour voir, et le bord d'un jeu » qui se retrouve chez lui quand il se fait tard, car c'est là où il revient quand il part.
C'est très intéressant. C'est un beau commentaire. Et quand tu fais du slam, Pierre, est-ce qu'il est accompagné de musique à ce moment-là ou c'est tout simplement il dit ça de manière plus rythmique ou,
C'est que le slam, ici au Québec, on n'a pas droit à des accompagnements.
Ah non?
C'est seulement la voix, le rythme de la voix.
OK.
Et ça fonctionne comme ça.
D'accord.
Donc, Pierre, en général, parle... Il n'y a pas besoin de musique.
Il n'y a pas d'accompagnement. Non. D'accord. Non. On peut avoir un aperçu d'un autre invité?
Bien sûr. Je nommerais Denis Sanson. Encore là, je cite des critiques. On dit que son écriture est visuelle, carbure aux images, la matière première de son œuvre. Son esthétique conjugue évocation naturelle et urbaine en une poésie aux riches moods à caractère autobiographique. Denis Sanson est aussi photographe.
Ah, d'accord.
Alors, j'ai un petit extrait, si vous voulez entendre.
Avec plaisir, oui.
Je vais en prendre d'un coup. Quand la bière fait son testament, le cœur, tatoué sur la bouteille, se consume. C'est presque IQ.
C'est aussi un univers de bar, un peu comme...
Oui. Je noterai aussi que Denis Sanson est aussi membre fondateur de CLS. CLS, c'est un site web où trois poètes lisent leur poésie, créent des photos et des vidéos poétiques.
OK.
Donc, Denis Sanson, Jean Coulombe et Alain Larose.
D'accord.
Sont derrière ce site.
OK. Puis comment ça s'appelle le site?
CLS.
CLS.
Ça ressemble à CLSC, mais c'est
CLS. Pour les gens qui sont intéressés d'aller regarder ça, il y a des photos aussi.
Oui, on va sur Google, CLS, on est rendu.
D'accord. Et ensuite?
Michel Plot, en poésie, très connu à Québec. Il enseigne, si je ne me trompe pas, la poésie à l'Université Laval depuis 15 ans.
Oh!
Il est né dans le quartier Saint-Sauveur. Il est revenu y habiter après quelques détours. C'est un amoureux de son art qui consacre sa vie à la littérature et surtout à la poésie. Il donne des ateliers d'écriture aux adultes en formation continue à l'Université Laval. Mm-hmm. Son dernier recueil, parce qu'il a publié beaucoup, se nomme « Le petit livre de l'été » aux éditions David.
On peut en avoir un extrait?
Oui. Mais avant, je vais vous parler que il a reçu le prix Alphonse Pichet pour sa suite poétique, intitulé « Nous passons sous silence ». Il a reçu aussi le prix Octave Crémazie pour « Le corps tombe plus tard » en 1992, le prix de poésie Félix-Antoine Savard pour « Qui s'enfonce dans la nuit » en 1998, et récemment, en 2008, il a reçu le prix du gouverneur général catégorie poésie pour son recueil « La lenteur du monde ».
C'est vraiment quelqu'un qui a été très primé.
Je n'ai pas dans mes notes un extrait
de
Michel.
Ah, d'accord. Bon, ben, mais c'est certainement très bon.
Fois, oui. Oui, mais déjà les titres sont très évocateurs.
Oui, oui, tout à fait. Alors, les gens vont devoir venir ici le 23 s'ils veulent
attendre. Aussi, Jacques Ouellette sera de la partie.
Jacques Ouellette, oui.
C'est un poète de Québec. Je pense qu'il habite dans le bout de Saint-Casimir. Et lui aussi a obtenu le prix Octave Crémazie en 87 pour son premier recueil intitulé « Qui ose regarder ». J'ai un extrait de son recueil qui s'intitule « Où serons-nous dans une heure ?» Jacques Ouellette. La nuit se fait venteuse, le corps se vide, l'âme est une idée fragile, bruissant au passage d'un fleuve dans les cimes.
C'est très joli. Il reste combien de poètes? C'est une drôle de question, parce que je ne veux pas te bousculer, mais il nous reste peut-être 2 minutes environ.
OK. Alors, il en reste 3.
OK, parfait.
Carole Lebel.
Oui.
Bon, je vais abréger un peu.
Attention au micro.
Oui, merci. Parfois, nous manquons d'existence. La poésie nous permet de se construire et de construire le monde en soi, autour de soi. Le dernier recueil de Carole Lebel aux éditions L'Hexagone s'appelle « Ce qui tue a plusieurs noms » et un extrait très court, « Des tas de photos sur la table, entre vérité et mensonge, une illusion en remplace un autre. Aurais-je assez de mains pour déchirer ce qui blesse? Que deviendront les souvenirs sur ma peau désabusée? »
C'est très différent, ça.
Et il vient publier deux très grands livres d'art. Okay. L'atelier, là où tout change de nom. Deux D'accord. livres d'art. Jean Coulombe, qui mm-hmm. fait partie du CLS dont j'ai parlé tantôt.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Cofondateur du tremplin d'actualisation de poésie. Société de Québec. Et il a collaboré aussi à des événements poétiques avec des musiciens, des collectifs, genre réparation de poésie. Alors, un extrait de son recueil « La fatigue du métal », c'est un autre style. « Souffler mes rêves en silence sur la pointe des vents, contempler malgré moi le lent défilé de ma vie qui s'étiole, qui s'enfuit, toute sirène hurlante dans le trafic des autres. »
Ce sont tous des gens qui ont publié?
Oui.
Mon Dieu, mais c'est la crème des poètes de Québec qui vont être ici
le
23. La crème,
mais parmi les très bons.
Ah oui, tout à fait.
Oui. Et pour terminer, bien, à Claude Antard.
Oui, bien, j'espérais que pouvoir entendre un de tes poèmes aussi.
J'en ai pas avec moi.
OK.
Mais je mentionnerai juste, par exemple, deux petites phrases. J'aime à dire ceci. Je n'ai rien à dire, mais je le dis quand même. Et j'ai aussi publié dans l'anthologie « Slam Poésie du Québec » aux éditions Vent d'Ouest ce poème qui s'intitule « Je ne dirai pas ». Mais ce serait long à en parler.
Sûrement.
C'est un poème de 5 minutes.
D'accord.
Alors voilà.
Bien, écoutez, on invite tout le monde à venir. Donc, c'est le 23 novembre, c'est à 19h30. C'est une entrée gratuite et vous aurez l'occasion d'entendre vraiment parmi les meilleurs poètes de la ville de Québec.
Oui, et j'aime à souligner le côté gratuit. C'est non seulement au point de vue des auditeurs qui viennent gratuitement, mais c'est la générosité aussi des gens.
Oui.
Des poètes qui se produisent oui. gratuitement pour le plaisir, les gens qui se déplacent pour venir entendre, pour créer un milieu où on parle poésie.
Une rencontre.
Une rencontre, voilà.
Merci beaucoup, Claude.
Merci, Catherine.
On va faire une pause avant de débuter notre série d'entrevues autour de la thématique de la Révolution. Et on va commencer ça avec Anne-Julie et la Révolution verte. On va écouter une chanson forte à propos pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est une chanson très bucolique, « Les blés » de Jacques Brel.
Donne-moi la main, le soleil apparut, il nous faut prendre le chemin, le temps des moissons est venu, le blé nous attend pas tendu et nous attendons trop de pain. Ta main sur mon bras, pleine de douceur, bien gentiment demandera de vouloir épargner les fleurs, ma fosse il les évitera pour éviter que tu ne pleures. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Donne-moi tes yeux, le soleil est chaud, et dans ton regard lumineux, il a fait jaillir des jets d'eau qui, mieux qu'un geste, mieux qu'un mot, rafraîchiront ton amoureux. Penché vers le sol, tu gerbes le blé. Et si parfois ton jupon vole, pardonne-moi de regarder les trésors que vient dévoiler pour mon plaisir le vent frivole. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Donne-moi ton cœur, le soleil fatigué s'en est allé chanter ailleurs. La chanson des blés moissonnés, venu est le temps de s'aimer. Il nous faut glaner le bonheur, écrasé d'amour, ébloui de joie. Je saluerai la fin du jour en te serrant tout contre moi, et tu combleras mon émoi en me disant que pour toujours. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons.
C'était donc « Les blés » de Jacques Brel. J'accueille donc ma première invitée de notre thématique de ce soir sur la Révolution, Anne-Julie. Bonsoir, Anne-Julie.
Bonsoir, Catherine.
Ça me fait très plaisir de te recevoir à mon émission ce soir. Tu fais une partie des rares que je n'avais pas encore réussi à gagner à ma cause. Donc, tu vas nous parler de la Révolution verte. Qu'est-ce que c'est la Révolution verte, en fait?
Bien, la Révolution verte, ça réfère à une série de changements dans le domaine de l'agriculture qui ont suivi les progrès technologiques de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont associés à la Révolution, donc, industrielle. Mm-hmm. Et puis, un domaine où ce progrès-là a été déterminant, c'est dans le domaine de la génétique végétale. Donc, pour se remettre en contexte, faut comprendre qu'avant la Révolution verte, ça faisait quand même déjà 10 000 ans que l'homme faisait de l'agriculture. Oui. Donc, il y avait de la sélection artificielle faite sur les plantes, dans le sens qu'on créait un environnement artificiel et puis qu'on sélectionnait toujours les plantes qui étaient les mieux adaptées à cet environnement artificiel-là, et que ça faisait très longtemps, et que c'était même un processus qui était industrialisé déjà avant la Révolution verte. Mm-hmm. Il y avait des compagnies de semences qui s'occupaient de garder des lignées parentales avec une génétique fixée, puis donc il y avait toute une industrie qui faisait que les agriculteurs achetaient des semences à ces compagnies-là qui étaient adaptées à leurs besoins.
Là, donc, tu parles avant la Révolution.
Avant la Révolution.
Ce que tu dis, c'est que depuis toujours, les hommes font des sélections des plantes pour avoir des produits plus performants ou qui correspondent plus à leur goût.
Oui, c'est ça. Puis que les plantes agricoles ne sont pas des plantes qui sont naturelles de toute okay. façon, dans le sens que même si on se replace au début du 20e siècle, une tomate ne serait jamais aussi grosse ni aussi juteuse, un blé ne serait jamais aussi grand, aussi uniforme, etc. Donc, on partait déjà d'un monde avec une génétique qui était domestiquée.
OK.
Mais il reste qu'avant ça, cette sélection-là était toujours faite dans le paradigme, disons, de la reproduction naturelle des plantes. Mm-hmm. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu commencer à faire de la culture de cellules végétales in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. Et puis que ça nous a permis d'augmenter énormément le pool génétique auquel on avait accès de deux manières principales. Premièrement, alors qu'avant, on faisait des croisements intraspécifiques, donc mm-hmm. à l'intérieur d'une espèce, on pouvait maintenant faire des croisements interspécifiques, prendre deux espèces qui étaient génétiquement très proches, puis mélanger leur génétique, ce qui okay. fait qu'on avait accès à beaucoup de variabilité. Et aussi, oui.
Là, on est dans les années 50, tu me parles, 60, on est à peu près dans l'après-guerre, là.
Oui.
OK.
Puis aussi, on a pu commencer dans ces milieux in vitro-là à mettre des agents mutagènes, que ce soit des agents chimiques, de la radiation, pour encore une fois augmenter la variabilité génétique du matériel avec lequel les semenciers travaillaient.
Okay.
Et puis là, on allait faire de la sélection, encore une fois, donc d'aller prendre les plantes les mieux adaptées à nos besoins, mais c'est ça, dans un pool génétique plus grand, ce qui fait que tout d'un coup, on a créé ce qu'on appelle des lignées élites, mm-hmm. qui avaient un potentiel beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant.
D'accord.
Donc, c'est à ce compte-là qu'on peut dire que c'est une révolution, mais aussi parce que c'était plus global que ça, parce que pour que le potentiel génétique de ces plantes-là puisse se réaliser, il a fallu toute une série d'ajustements. Il a fallu des intrants, des fertilisants, des pesticides, de la mécanisation, de l'irrigation, etc., etc.
Donc, si je comprends bien, la révolution verte, c'est un ensemble de facteurs. C'est pas juste une chose. Ça comprend et le travail sur les souches en laboratoire, et la fertilisation, et la mécanisation des méthodes de
Oui, exactement. C'est un changement complet du paysage agricole qui s'est passé après ces années-là. J'ai explicité mieux le côté génétique parce que ça a été comme le moteur okay. de ces changements-là. Mais les changements étaient beaucoup plus globaux que la seule génétique des plantes. Mm-hmm. On est passé d'une agriculture paysanne à une agriculture industrielle, donc où il y avait une productivité, puis vraiment un processus là, industriel de production.
Oui.
Et puis, bon, évidemment, ça a eu plein de conséquences environnementales, les pesticides, les fertilisants du côté de l'environnement, de la flore sauvage, etc. Et puis, comme dans bien des choses, les progrès techniques sont souvent beaucoup plus rapides que les progrès sociaux. Donc, la productivité des terres a augmenté de peut-être 2 fois, la productivité du travail a augmenté de 10 fois. Donc, en soi, c'est super d'avoir la même quantité de nourriture pour 10 fois moins de travail, mais la société n'était pas prête à ça. Donc, l'exode rural a finalement mené à de la pauvreté. Puis alors qu'on dit que la Révolution verte a sauvé de la famine des populations entières, cette nouvelle productivité-là était super mal distribuée. On sait tous très bien que le problème de la famine n'est pas réglé, mais que c'est pas tant une question de productivité que de distribution. Donc, les progrès sociaux ont tardé à suivre cette révolution-là.
Quand on parle des OGM, les fameux OGM, là, c'est les souches qui sont travaillées en laboratoire, c'est ça?
Non. Les OGM, c'est ce qui est venu après, donc ce qu'on pourrait appeler la deuxième révolution biotechnologique.
OK, c'est celle dont on va parler tout à l'heure.
Mais
d'accord.
C'est important de faire la distinction parce que, justement, s'il y a une révolution qui est peut-être plus significative en termes technologiques, c'est celle-là. Et celle-là, c'est pas considéré comme des OGM, parce que OGM, ça veut rien dire, ça veut dire génétiquement modifié. Oui. Comme je dis, avant la révolution, ils étaient modifiés par la sélection. Après, ils ont été modifiés de ces façons-là, qui sont aujourd'hui acceptées en agriculture biologique, puis de toute façon, partout, là, omniprésente, puis inévitable. Les OGM, c'est juste le dernier bébé là des technologies végétales, mais qui...
Puis on va en parler tout à l'heure, fait que je veux pas qu'on embarque tout de suite là-dessus. J'aimerais qu'on revienne sur les conséquences environnementales et sociologiques, donc, de la révolution verte, parce que les gens, je pense, qu'ils mélangent tout ça. Bon, en tout cas, moi, je mélange tout ça, je pense. Et donc, la révolution verte, c'est vraiment les années 60, la culture, on s'est mis à produire, comme tu disais tout à l'heure, 10 fois plus de nourriture pour le même carré
disons 2 fois plus pour le même carré, 10 fois plus pour la force de travail d'une personne.
Okay.
Parce que ça, il y a la mécanisation aussi qui fait que pour un terrain de 200 hectares, je sais pas là, mais au lieu d'avoir 50 employés, tu vas en avoir 5.
OK. Donc, puis ça serait quoi les conséquences environnementales en fait?
Environnemental, c'est tout ce qu'on connaît de l'agriculture, la pollution des cours d'eau, l'eutrophisation des cours d'eau, les pesticides qui ont eu des conséquences sur la flore et la faune oui. sauvage. Ces conséquences-là ont été portées à l'attention du public par le livre bien connu de Rachel Carson, je pense qu'il s'appelle okay. Silent Spring, donc le printemps silencieux qui était... un livre, dans le fond, qui disait, ben là, si on continue à mettre des pesticides comme ça, puis que les insectes les mangent, les oiseaux mangent les insectes, ben on n'aura plus d'oiseaux au printemps. Faut commencer okay. à faire attention.
Ça, c'est en quelle année, ça, le livre de... À peu près, là, je te demande pas précisément.
Ça, ça doit être fin 80, du 20e siècle. Ouais, 90, probablement.
OK. Silence Spring.
Silent.
Silent.
Donc, le printemps silencieux.
OK.
Qui était justement... C'est ça qui portait à... Qui a été reconnu, là, comme... Une ouverture au monde sur les conséquences de cette révolution-là. Parce qu'au début, c'est parce que c'est vrai que la productivité avait augmenté. Les gens étaient enthousiastes,
oui, ben
produisaient,
oui.
puis là, il y avait des fertilisants, des pesticides, puis il était trop tôt comme pour penser à toutes ces conséquences-là. Fait qu'il y a eu vraiment de l'abus. Fait que, c'est ça, les pesticides en étant un, mais la mécanisation aussi qui a brisé la structure des sols.
Oui.
Puis aussi la façon, le modèle de changer de petite ferme avec des agriculteurs puis à une diversité des cultures, à des grosses fermes, à des grands champs sans refuge pour les espèces sauvages,
oui.
sans
oui.
ébrisement.
Puis on tombe dans une pensée capitaliste aussi, parce
Exactement.
Que les grosses industries ont pas beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe, c'est de faire l'argent, là, finalement. Là.
Oui, exactement. Puis les lois environnementales ont tardé à suivre.
Oui.
Puis, effectivement, là, c'est les grosses compagnies aussi pouvaient profiter de leur monopole, puis de faire des champs sur des hectares, puis de pas s'en faire avec la diversité, la biodiversité sauvage, mais même la diversité des cultures. Aussi bien faire 200 hectares de maïs, c'est beaucoup plus simple que d'avoir une rotation des cultures, puis de s'arranger, d'essayer de faire correspondre l'offre puis la demande, puis tout ça, c'était...
Voilà.
Plus difficile.
Non, on sait que les critiques, effectivement, sont très vives, mais je trouvais ça important de noter que le départ de la Révolution verte, ça a été un essor, et je pense qu'il y a même eu des prix Nobel qui ont été décernés à certaines personnes qui ont collaboré au début de cette révolution-là.
Oui, exactement. Un scientifique qui a travaillé sur, justement, la culture in vitro, puis qui avait développé une variété, je pense, de blé qui faisait qu'il restait érigé plus longtemps, qui permettait de le récolter plus tard, donc d'en avoir plus. En tant que tel, ça l'a sauvé des populations de la famine, puis ça a été très bénéfique. Puis cette personne-là, effectivement, a gagné un prix Nobel, puis beaucoup d'autres reconnaissances. Parce que, bon, aujourd'hui, on le voit avec le recul, puis on dit c'est terrible, là, il y a vraiment des sols qui ont été perdus, ça, il y a eu de la déforestation, il y a eu plein de conséquences, mais, je veux dire, devant la panique d'une famine mondiale, tout ça était vu d'un œil beaucoup plus positif que celui qu'on a aujourd'hui. Là.
Tout à fait. Bien, on va faire une petite pause avant de passer, donc, au OGM dont on parlait tout à l'heure. On va écouter une pièce musicale qui est aussi assez pertinente, « Dr. Jekyll and Mr. Hyde » de Jean Leloup.
De préparer formule magique à base de pétrole desséché pour devenir homme héroïque. La mixture lui-même, il va boire afin de passer à l'histoire.
transformé en un amour enviable, un homme hirsute de mauvaise pensée, esclave de ses appétits, un viveur de bordel. Quand tout à coup la foule autour se presse à vite comme un vautour, en un moment mille fioles sont enlevées sans but au viol. C'est la panique, c'est l'hystérie. Oui, le village est rendu gris. Oui, le village est transformé en un labo endiablé, esclave de ses appétits, un vileur de bordel. La nuit,
la nuit,
la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Monsieur méconnaissable, si tu viens t'asseoir sur mon visage, je te ferai passer de bon moment. Et la Vierge de son palais sur le monsieur de se donner, et tous en flammes et tous larmes, mais ça rigole avant la fin. Avant la mort faut s'amuser, avant la mort faut se donner, avant la mort faut se marrer.
Alors, c'était Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Jean Leloup, et on est de retour avec Anne-Julie. On vient de parler de la Révolution verte et de la manière dont cette révolution-là a été attaquée de tous côtés ces dernières années. On en est maintenant à une autre révolution. En fait, on est à la révolution biotechnologique. On est rendu où avec tout ça?
La révolution biotechnologique, j'ai moins l'impression que c'est une révolution. Premièrement, parce que c'est toujours délicat de dire d'une chose qu'elle est une révolution avant là, ou pendant qu'elle est en train de se passer. Mais aussi parce que d'un strict point de vue technique, justement, c'est beaucoup moins une révolution que ce qui s'est passé à l'époque de la Révolution verte. Parce que là, à Révolution verte, effectivement, on a vraiment surmonté les barrières de la reproduction naturelle des plantes. Tandis que maintenant, c'est vraiment une amélioration qui fait partie d'un continuum des techniques de sélection végétale puis d'amélioration génétique des plantes qui est dans un continuum depuis des dizaines de milliers d'années, malgré l'augmentation fulgurante là, depuis une centaine d'années. Mm-hmm. Et puis là où avant, on pouvait faire des croisements entre des espèces différentes mais rapprochées génétiquement, mais où on savait pas exactement ce qu'on faisait, on créait plein de plantes, puis on faisait de la mutagenèse, tout ça, puis on allait piger les plantes qui, par hasard, correspondaient à nos besoins. Maintenant, on sait exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on sait qu'un gène, on comprend assez bien la biologie pour savoir qu'un gène va participer, par exemple, conférer une résistance à un insecte ou améliorer l'assimilation de l'azote ou n'importe quoi. Et puis là, on est capable de prendre ce gène-là et d'aller le porter dans la génétique d'une espèce végétale qui est cultivée. Donc, au lieu d'avoir beaucoup de gènes de fonction inconnue, maintenant, on a un ou quelques gènes, mais de fonction connue. Donc, c'est pas un changement de paradigme aussi essentiel que certaines personnes le prétendent, entre autres tout le mouvement anti-OGM ou biologique.
Bon, c'est ça, il faut le nommer. On parle bien des OGM, là, depuis le début, là.
En général, quand on fait référence à un OGM, c'est là où on prend un gène puis qu'on va le porter dans une nouvelle espèce, là, d'une façon volontaire, là.
Qu'est-ce que les gens reprochent aux OGM?
C'est une bonne question, en fait, parce que les gens ont peur parce que c'est pas connu. Parce qu'effectivement, là où on mélange du seigle avec du blé ou tu sais des choses comme ça, les gens se disent ça se mange, ça va se manger encore. Là, vraiment, avec les OGM, ça laisse beaucoup plus place à la mythologie, parce que c'est vrai que on peut aller prendre un jeune de poisson puis le mettre dans une tomate, tu sais.
Oui, c'est sûr puis, que c'est, sur le coup, ça nous fait étrange.
Oui, ça fait étrange.
C'est difficile de...
Mais ça fait étrange aussi de savoir que les semences biologiques ont été créées par mutagenèse avec des agents chimiques, tu sais. Mais ça, c'est les gens ont plus l'impression que c'est naturel parce que ça fait longtemps, tu sais. Donc, il y a les gens voient des risques là-dedans. Puis, il y a des risques dans le sens qu'une nouvelle espèce végétale, peu importe la façon dont elle a été produite, peut aller s'hybrider avec des espèces sauvages, puis donc faire créer un problème de résistance ou...
Il n'y a pas un petit peu le complexe de Frankenstein aussi là-dedans?
Absolument, absolument. Toutes les critiques anti-OGM utilisent cette image-là d'une façon qui est un peu ridicule.
Qu'on va
là.
Comme perdre le contrôle sur l'espèce qu'on a créée, qui va se mettre à contaminer toute la nature. Enfin, on entend toutes sortes de choses, là.
Oui, on entend toutes sortes de choses. Puis, je veux dire, les risques qui existent sont souvent exacerbés, là, dans le sens perdre le contrôle, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais, oui, il y a une certaine notion de mettre un gène dans une plante puis ensuite de mettre la plante dans le champ.
C'est ça, voilà.
C'est vrai, là, qu'elle peut aller se reproduire avec une plante sauvage. Perdre le contrôle, même si c'est peut-être théoriquement possible, après ça, que là, le gène soit partout, tout puis qu'il n'y ait plus l'espèce où le gène n'est pas, c'est théoriquement possible. C'est peu probable dans le sens que le gène qu'on choisit de mettre, généralement, il est utile dans un contexte environnemental agricole. Là. C'est rare qu'il va... Ça serait improbable qu'il confère un avantage à une plante dans un milieu sauvage, puisqu'on l'a choisi pour une plante agricole. Puis aussi, de dire là, qu'il y a un gène, on perd le contrôle, là, t'sais, c'est vraiment, je veux dire, à un moment donné, les plantes, ils se reproduisent, puis la meilleure passe, puis c'est pas... c'est peut-être plus contrôlable qu'on pense, là.
Est-ce que tu as eu vent, peut-être pas, mais est-ce que tu as eu vent d'une étude qui est sortie récemment sur des souris qui avaient toutes sortes de... Bon, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses?
Ben, ce que j'en pense, il y a beaucoup de choses là, dans cette étude-là, puis ben, moi, je travaille à l'Université Laval là, dans ce domaine-là, puis le monsieur qui a fait cette étude-là est très controversé. Là. C'est un activiste anti-OGM, clair, qui a été ridiculisé par la communauté scientifique beaucoup de fois avant. Il a écrit des articles, il a dû les rétracter. Là, c'est drôle, il sort un documentaire, puis un livre, puis c'est très une campagne de peur.
Ça a été une folie sur Facebook, ça s'est contaminé, tout le monde s'envoyait ça, c'était
les
photos
pas.
Des souris. Là.
Ouais. Ben, c'est une campagne de peur, là, parce que ces souris-là, ben, il y a beaucoup de choses, mais je pense que la chose la plus importante, c'est qu'en fait, l'article n'a rien à voir avec les OGM, dans le sens que... L'OGM, c'est juste une technique pour faire une variété végétale. Fait que la même plante aurait pu être créée d'une autre façon. Tu sais, je veux dire, oui, c'est possible de faire quelqu'un qui aurait vraiment l'intention de faire une plante qui est mauvaise puis qui donne le cancer aux souris pourrait le faire avec les anciennes techniques puis pourrait le faire avec les nouvelles techniques. C'est pas fondamental que ce soit un OGM. Puis la plante qu'il a prise, c'est une plante qui a une résistance à un herbicide. Puis là, c'est un peu mélangé parce qu'il leur donne l'herbicide d'un côté, la plante résistante de l'autre. Là, ils voient le même effet. L'effet, c'est que les souris ont le cancer alors que c'est des souris qui ont l'équivalent de des personnes de 80 ans puis qui sont supposées avoir des cancers, qui sont supposées tuer en termes d'éthique sur l'expérimentation animale. En tout cas, il y a toutes sortes de critiques sur cette étude-là, mais c'est surtout que l'OGM, de toute façon, c'est une technique. Les variétés végétales vont toujours continuer à évoluer. Puis les techniques évoluent aussi. Puis de dire, on arrête... à une technique des années 60 qui est de la mutagenèse dirigée puis toutes sortes de techniques d'hybridation. En fait, le mouvement biologique puis écologique a décidé d'arrêter l'évolution vraiment dans un creux là où on allait chercher de la variété génétique mais qu'on la comprend pas. Ça, c'est acceptable, mais là, étant donné toutes les conséquences négatives qu'il faut admettre qu'il y a eu de ça, on a dit on arrête. Mais là, tu sais, c'est un peu ridicule parce qu'en termes de génétique végétale, on est vraiment dans un creux. Mais faut donner au mouvement biologique leur bonne foi, premièrement, puis aussi le fait qu'en termes de pratiques culturelles puis d'utilisation raisonnable des pesticides, puis etc., ça l'a permis de faire des progrès quand même
tout à fait.
Environnementaux.
Oui. Puis, en conclusion, est-ce qu'on en est où aujourd'hui face au problème de l'agriculture industrielle? Les chercheurs en sont où, là?
Mais un peu comme dans le cas de la Révolution verte, je pense que le problème est encore une fois plus au niveau social ou réglementaire, dans le sens que la technologie, moi, personnellement, me fait pas peur. Je pense qu'il y a des bonnes améliorations qui sont faites autant en termes de la génétique végétale que des pratiques agriculturales, même dans le conventionnel. Par contre, c'est ça. Là, il y a un gros problème, par exemple, avec la propriété intellectuelle, parce que ces technologies-là sont mal perçues, entre autres, parce que les seules compagnies qui peuvent se permettre d'en faire, c'est des compagnies qui ont une éthique qui est vraiment, vraiment douteuse.
Discutable. Il y a Monsanto qui a fait des procès à un agriculteur voisin parce qu'il s'était ramassé à avoir les semences de Monsanto dans son jardin, en tout cas.
Oui, exactement. Il y a toutes sortes d'histoires, puis Monsanto n'est pas nécessairement un modèle d'éthique, ni aujourd'hui, ni dans le passé. Puis c'est les seuls qui peuvent se permettre de faire ça parce qu'il y a une structure réglementaire qui fait que ça coûte des dizaines de millions de dollars sortir un OGM. Alors que... puis donc, c'est ça, Monsanto a un conflit d'intérêts aussi parce que c'est eux qui vendent les pesticides puis les fertilisants, fait qu'ils feront pas un OGM qui va, par exemple, améliorer l'absorption de l'azote puis avoir une conséquence environnementale positive parce que c'est eux qui vendent de l'insecticide de l'autre côté, donc le fertilisant, pardon, de l'autre côté. Donc, ça contribue aussi à la perception négative que les gens ont de cette évolution-là, mm-hmm. puis à toute la folie, Séralini, puis les rats qui ont le cancer, puis à la peur, puis etc. Donc, c'est surtout ça le problème aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, il y a un monopole, il y a une mauvaise distribution, il y a de la peur, puis ouais. Ça serait vraiment au niveau social qu'il y aurait des progrès à faire, je pense.
Ou en tout cas au niveau économique. Peut-être qu'on ouais. est un peu pris avec un système économique qui est devenu fou, et puis il faut pas arrêter le progrès parce qu'on a un problème avec un système économique, finalement.
Oui, probablement.
Avant de terminer, je veux juste qu'on reprécise. On a parlé d'un livre tout à l'heure, puis je pense qu'on a donné la mauvaise année, Silent Spring.
Oui, il paraît que ça serait en 1962.
Comme
donc,
c'est étonnant.
Plutôt que je pensais.
Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Julie.
C'est moi qui te remercie.
On va faire une pause. Attendez un instant, je vais prendre mes notes. On va faire une pause musicale avant de revenir avec Alex. Attendez un instant. Ma feuille est là. Oui. Bon, donc, on va s'intéresser à un autre champ de réflexion. On va s'intéresser à l'art. Plus précisément, à l'art visuel. On va écouter avant une pièce forte intéressante dont j'ai envie de vous parler un petit peu avant qu'on l'écoute parce que c'est une pièce très particulière. Ça s'appelle « Le marteau sans maître » pour voix et 6 instruments. C'est une œuvre de Pierre Boulet qui date de 1954 d'après des poèmes tirés du « Marteau sans maître » de René Char. Et c'est un recueil de poésie. L'œuvre a été créée le 18 juin 1955 au Festival de la Société internationale pour la musique contemporaine à Baden-Baden. Alex nous donnera des précisions tout à l'heure sur la pièce, mais moi, quand je l'ai écoutée, le qualificatif auquel cette pièce-là m'a fait penser, c'est surréaliste. Pour moi, c'est de la musique surréaliste. Alors, on va écouter un extrait parce que la pièce dure 12 minutes. On va se contenter donc d'un extrait de « Le marteau sans maître » de Pierre Boulet. Thank you. Donc, c'était un extrait de le marteau 100 mètres de Pierre Boulez. Pardon, on doit prononcer le Z, donc c'est Boulez. Bonsoir, Alex.
Bonsoir.
Donc, je me suis permis de qualifier la pièce que tu viens de, que tu nous as choisie de surréaliste. Je ne sais pas si c'est un qualificatif qui est complètement hard. Toi, c'est une pièce que tu connais bien.
C'est inspiré, on pourrait dire, par le surréalisme. En fait, c'est de la musique sérielle. Je pense que, bon, parce que je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est Pierre Boulez, en fait, est un... on pourrait dire qu'il a continué un peu ce qu'avait commencé Arnold Schoenberg, ce qu'il appelait le dodécaphonisme sériel. Puis, bon, je ne sais pas exactement à quoi ça consiste au niveau musical, mais Boulez a créé une musique à partir de des principes assez complexe, là, puis, mais il réussit à créer une espèce de musique qui semble tout à fait libre et presque improvisée.
Oui, oui, tout à fait.
Mais c'est ça, c'est vraiment un truc mathématique assez compliqué. Puis, ben, au niveau, c'est ça, ça fait une musique assez onirique. Puis,
oui.
Il a pris pour. Ben, parce que juste avant, là, la musique s'est arrêtée à un moment où, là, il y a une chanteuse qui commence un poème de René Char, qui est un poète surréaliste. De là vient le titre Le marteau 100 mètres, qui est un recueil.
Je disais tout à l'heure que ça durait 12 minutes, mais tu me disais que c'était beaucoup plus long que ça.
Oui, c'était juste la première partie. En fait, là, t'en as pour une bonne demi-heure facile. Là.
C'était un très bon choix parce que tu vas nous parler donc de l'art contemporain. On va entrer dans le vif du sujet. Si tu veux, tu nous as préparé un exposé qui s'intitule L'art contemporain contre la révolution.
Ouais, un titre un peu baveux, là, mais en fait, c'est pas. L'art contemporain n'est pas contre la révolution, là, c'était juste pour. En fait, c'est le titre de mon courriel.
Oui!
Mais.
Je l'ai retenu, je trouvais ça intéressant.
C'est qu'en fait, l'art contemporain n'est pas révolutionnaire. On peut pas être révolutionnaire à l'intérieur des institutions. Si on fait une révolution, c'est pour abolir ce qui est là, puis faire autre chose. Puis bon, ben, c'est ça, les. les avant-gardes artistiques du début du 20e siècle. Par exemple, les expressionnistes, les dadaïstes, les surréalistes. Puis plus tard, un peu dans les années 50-60, les situationnistes. C'est des avant-gardes qui ont voulu amener l'art dans, disons, dans le quotidien, amener ce qu'il y avait de ce qui faisait grandir chaque individu par l'art, l'amener dans la vie quotidienne des gens. Okay. Mais c'était aussi des groupes qui étaient engagés politiquement aussi, qui n'étaient pas subventionnés.
Tu parles de quelle époque, là?
Je parle du début du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle.
OK.
Bon, ce qui fait que on peut pas vraiment dire que l'art contemporain d'aujourd'hui qui est subventionné puis qui est en fin de compte là, carrément dirigé par les ministères de la culture, des entreprises,
chose,
tout ça, c'est pas pareil là.
Donc l'art contemporain est né au début du 20e siècle.
Bah bon, l'art contemporain, ça c'est dur, on peut pas vraiment dire que l'art contemporain est né au début du 20e siècle, mais ce qu'on peut dire c'est que aujourd'hui on dit art contemporain, à l'époque on disait art moderne.
Là. OK. OK. Oui, tout à fait. L'art moderne, tout ce contemporain, c'est l'art qu'on fait aujourd'hui, finalement.
Oui, c'est juste un terme, en fin de compte. Là. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du siècle, l'art puis la révolution sociale, ça ne faisait qu'un, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que là, si j'ai pas...
Tes notes, installe-toi comme il faut, là.
Mais voilà, c'est ça, en fait... les avant-gardes ont voulu exposer, ont voulu explorer en fait ce qui était commun à tous, l'inconscient, les instincts, les intuitions, la connaissance des désirs profonds de l'individu, qui devait lui permettre de trouver sa voie, de s'émanciper des carcans idéologiques qu'il maintenait et qu'il maintient toujours dans cet état d'asservissement, c'est-à-dire l'état de séparation, d'aliénation, le fait d'être séparé de sa propre expérience vitale, si on peut dire. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, ces groupes-là, Dada, puis le surréalisme en particulier, ont vraiment fonctionné avec des scandales, y avait des bagarres, c'était pas un truc qui était intégré à la société.
Quand tu parles de bagarres, tu parles de bagarres intellectuelles ou tu parles
de bagarres physiques?
Ah oui?
Oui, ils en sont venus au point plusieurs fois. Il y a justement René Char, dans une fameuse bagarre dans les années 30, a versé un coup de couteau. Ce qui fait que c'est allé jusque-là.
Entre artistes de visions différentes de...
En fait, il y avait un bar qui avait été ouvert du nom de le bar Maldoror. Puis c'est Maldoror, bon, les chants de Maldoror de Lautréamont, les surréalistes avaient beaucoup, disons... construit leurs idées autour de ce poète-là de Lautréamont. Mm-hmm. Puis pour eux, c'est quelque chose qu'on pouvait pas récupérer dans un commerce. Okay. Puis ils sont juste rentrés là pour tout casser. Puis c'est ce qui est arrivé. Là.
C'était vraiment sérieux.
Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est l'aspect sérieux qui aujourd'hui fait ricaner beaucoup de gens qui sont plutôt dans l'art contemporain puis qui trouvent un peu absurde les chicanes, les bagarres, les exclusions, les procès, les procès pas institutionnalisés, mais les espèces de procès internes qui se faisaient à l'intérieur du groupe surréaliste, qui jetaient dehors un individu quand ils pouvaient l'accuser, par exemple, dans le cas de Dali, sa fascination pour le général Franco, mm-hmm. pour Hitler, ce genre de choses-là, c'était tout à fait normal pour un regroupement qui voulait faire la révolution, qui voulait, comme disait Walter Benjamin ou Benjamin, je sais pas trop comment le prononcer, mais qui il voulait redonner à la révolution les forces de l'ivresse.
OK. Bon,
c'est un peu ce que les surréalistes voulaient faire. Ils sont entrés au Parti communiste, ils se sont fait mettre à la porte du parti aussi, où ils ont claqué la porte, là, c'est pas tout à fait clair. Il y a toute une histoire, en fait, du surréalisme qu'il faudrait que les gens lisent pour qu'ils comprennent que l'art d'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui subventionnés qui naissent quasiment dans les musées ne sont pas des révolutionnaires. Ils peuvent bien se dire influencés d'une façon toute formelle artistiquement par ces mouvements-là, mais ils peuvent pas prétendre aujourd'hui continuer cette...
Ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que l'art contemporain actuel se prétend de l'art moderne puis du mouvement surréaliste.
Souvent, ils vont... le surréalisme est souvent assez boudé par les artistes en général, mais ils vont souvent se revendiquer un peu de l'esprit Dada, si on pourrait dire.
OK.
Puis Dada, ben c'est ça. C'est un mouvement qui précède le surréalisme. C'est à peu près, en plus, les mêmes personnes qui ont continué après pour faire le surréalisme. Puis ils peuvent, à mon avis, ils peuvent pas se prétendre... comme je te l'avais envoyé en courriel.
Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu me reparles un petit peu. J'ai vu dans ton exposé, tu me parlais de l'économie, de l'art...
L'art d'économie mixte.
Oui, c'est ça. Voilà, j'aimerais que tu m'expliques ça.
C'est un terme qui a été sorti par... Barthélémy Schwartz, qui est un théoricien, artiste français, qui regarde ce qui s'est passé avec le capitalisme à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand le capitalisme, se met à subventionner... les hôpitaux, l'éducation, tout ça, il y a une plus-value du capital qui est prise par l'État puis qui est redistribuée de manière à un peu acheter la paix, on pourrait dire, avec le monde ouvrier qui était vraiment il y avait les partis communistes qui étaient plus forts, tout ça, bon. Puis il achetait la paix en faisant ça, puis aussi il essayait, je pense, d'empêcher qu'il y ait des crises économiques comme celle de 1929.
Je pense que c'est dans la foulée des pensées de Keynes aussi, hein?
Keynésianisme. Oui, c'est ça.
L'État redistribuait l'argent que... Les plus hauts salariés donnaient l'argent à l'État pour qu'il redistribuait ça aux plus pauvres. C'est un petit peu ça l'idée du...
Ou la classe moyenne, comme d'habitude. Oui. En fait, c'est la classe moyenne qui a toujours le plus écopé.
Oui.
Parce que les plus hauts... pas les plus hauts salariés, en fait. C'est les salariés, finalement.
C'est ça, c'est les salariés.
Qui donnent les...
L'argent à l'État, puis l'État le redistribue.
Voilà, c'est ça.
Okay. Et donc, il y a eu un impact en art de ces mesures-là.
Eh bien, voilà, c'est ça. Les subventions, ça vient avec ça. C'est ça, les artistes sont beaucoup plus confortables depuis ce temps-là, puis ils ont voulu, en fait, pour sortir du marché de l'art, c'est-à-dire que quand on faisait un tableau, on vendait le tableau, on était dans le marché de l'art. Mais en arrêtant de faire des tableaux, en faisant, par exemple, je sais pas, du body painting ou de l'art conceptuel, des choses comme ça, ben là, on s'imagine s'être débarrassé de ça, du marché de l'art, mais on reçoit des subventions. Puis ces subventions-là viennent de l'argent qui est prise justement d'une plus-value qui est récupérée par l'État et qui est redistribuée, ce qui fait que c'est un art qui est intégré, en fin de compte. Ben voilà, c'est ça.
Dans le fond, c'est qu'il n'y a plus de révolution possible en art. En fait,
la révolution possible en art, c'est une grosse question. Mais ce que je peux dire... C'est que aujourd'hui, l'État prend moins de place, de moins en moins. Comme on a pu remarquer, les hôpitaux tous se privatisent. Là, cette période-là de l'après-guerre est en train de se terminer depuis une vingtaine d'années. Là, ça recule. Ce qui fait que probablement que les artistes vont se radicaliser. Probablement qu'il va y avoir moins d'artistes aussi, parce que dans un monde où l'art est subventionné, il y a plein de gens qui sont pas si inspirés que ça, puis qui reçoivent des subventions, puis qui vivent de leur art, mais qui, en fin de compte, dans un autre système, trouveraient autre chose à faire pour gagner leur vie, tu sais. Fait que je pense qu'il va sûrement rester les plus radicaux.
Dans le fond, se remet en question véritablement le marché les subventions en art?
Si je le remets en question, oui. Ça dépend de quoi tu te réclames. Si justement tu te réclames de la révolution, si tu veux une révolution, si tu veux, par exemple, l'abolition du capitalisme, l'abolition des classes sociales...
Tu peux pas accepter des subventions de l'État.
Ben, pas vraiment. je vais pas non plus commencer à juger tous les artistes qui le font, mais s'ils viennent me dire qu'ils sont des révolutionnaires, puis qu'ils se réclament après ça, par exemple, des situationnistes, comme j'ai vu dans certaines revues, que je nommerai pas, revues supposément d'avant-garde d'aujourd'hui, qui se réclament sans arrêt des situationnistes, mais qui reçoivent des grosses subventions, puis qui font leurs performances dans les musées, puis ce genre de choses-là. Et puis qui, en plus, pour essayer de justifier cette espèce de, comment dire, double discours-là, ils vont dire que c'est une forme de dialectique avec les institutions.
OK, c'est formidable.
De retourner contre les institutions leur propre argent, on pourrait dire, tu sais, okay. Ce genre de choses-là. À mon avis, c'est un discours hypocrite, puis ben voilà, c'est ça.
Il y a une phrase que j'ai retenue dans ton exposé quand je l'ai lue, c'est « La subversion de la société par l'art est devenue la subversion de l'art par la société ».
Oui.
Et comment l'art peut encore être subversif aujourd'hui? Est-ce que c'est possible?
Oh, peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment une bonne question. Mais c'est certain que l'art qui est subventionné par la société ne peut pas le critiquer radicalement. Puis s'il le fait, de toute façon, bien souvent, c'est encore plus vendeur. Puis c'est ça, mais ça modifie aussi la forme de l'art. Le fait que ça soit subventionné, oui. Ça modifie les formes artistiques, ça modifie la façon dont les artistes se regroupent aussi. Voilà, c'est en cela que, justement, le capitalisme a subverti l'art plutôt que l'art est subverti.
Le capitalisme. Il y a toutes les maisons de la culture un peu partout, puis les regroupements d'artistes qui se créent des endroits subventionnés où ils peuvent faire leurs installations.
Tu sais que les dadas, les surréalistes disaient qu'il faut détruire les musées, même les futuristes qui, eux, étaient plutôt à droite, là, généralement, là, en tout cas les futuristes italiens. En fait, les avant-gardes du début du siècle voulaient vraiment être engagés politiquement, puis avancer, puis bon, c'est ça, détruire tout ce qui réifiait l'art, tout ce qui le figeait, qui le rendait inopérant. Puis aujourd'hui, les artistes naissent pratiquement dans les musées. Il y a des artistes là, qui ont 20 ans qui sont dans les musées. Puis les musées ont tellement acheté de cochonneries depuis 50 ans qu'ils ont été obligés, en fin de compte, de payer des théoriciens à gages, là, comme je les appellerais, pour théoriser sur des œuvres qui n'ont aucune profondeur, mais il faut théoriser là-dessus pour y donner artificiellement une profondeur pour que ces œuvres-là continuent d'avoir une sorte de valeur monétaire sur le marché, parce que ces musées-là en sont pleins, puis si ça coûte plus cher de les gérer que de les avoir, en fin de compte.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, c'est ça. Il y a tout un faux discours qui s'est créé à partir de tout ça. J'ai lu des extraits de livres sur l'art, puis t'as souvent l'impression que c'est écrit par ce que Marcuse appelait l'homme unidimensionnel.
Oui, oui.
Tout se limite à la rétine ou à la présence ontologique de l'œuvre. Ah, l'œuvre est là, donc elle est là, donc elle est là, puis ça s'arrête à ça très souvent, puis... On se demande ce que ça vaut à côté de ce que faisaient, par exemple, les surréalistes, ne serait-ce que leurs récits de rêve qu'ils publiaient dans les revues ou leurs œuvres créées automatiquement, tout ça, tu sais, c'est tout ce qu'il y avait à découvrir de profond dans des œuvres créées avec le subconscient, on pourrait dire. Comparé à ce qu'on trouve après ça d'œuvres dites conceptuelles ou il y a certainement des bonnes choses que j'ai jamais vues en fin de compte, mais j'ai vu beaucoup de cochonneries. Je vois dans des salles d'exposition, je lis le petit papier que l'artiste met là, puis je suis pas un imbécile, je comprends ce qui est écrit là, mais ça me mène vraiment pas très très loin, tu sais.
Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup, Alex. C'est une réflexion forte et intéressante. Ça nous donne peut-être pas de réponse sur ce qu'il faut faire ou comment l'art peut se sortir de ce piège conceptuel. mais c'est une réflexion quand même. Ça nous permet de réfléchir à tout ça. Ouais. Merci beaucoup.
OK, merci.
On va faire une pause musicale avant de passer à notre prochain invité, Xavier. Xavier va nous parler de Panagoulis, qui, comme le dit le titre du prochain exposé, a été un esclave au service de la Révolution. On écoute une pièce pour piano absolument sublime, la Campanella de Liszt, interprétée par Valentina Lisitsa. Thank you. c'était la Campanella de Liszt, interprétée par Valentina Lisitsa. Et nous sommes de retour avec Xavier. Bonsoir, Xavier.
Salut, Catherine.
Donc, tu vas nous parler d'un révolutionnaire grec.
Ouais.
Alekos Panagoulis. Comment tu as connu ce personnage?
Je l'ai connu à travers le livre Un homme qu'Oriana Fallaci a écrit en son honneur, donc pour lui conférer peut-être une gloire posthume, pour accentuer sa gloire posthume plutôt. Puis c'est le libraire, donc le propriétaire de la librairie Saint-Jean-Baptiste, qui m'a gentiment référé ce livre qui est excellent, vraiment touchant. Donc c'est sur son histoire, là.
Donc c'est un livre qui fait la biographie de Alekos Panagoulis. Et donc c'est un révolutionnaire qui a vécu donc en Grèce à l'époque, on appelait ça la dictature des colonies.
Ouais, c'est en plein ça. En fait, c'est durant la dictature des colonies. Je vais faire un bref portrait de ce qui est arrivé. Ça va être vraiment, je vais couper les coins ronds, hein, comme on dit, là. Donc cette dictature des colonies là a œuvré de 1967 à 1974. Elle a provoqué l'exil du roi Constantin II, qui était monté sur le trône en 1964. Il était alors très très jeune. Ça a commencé, en fait, les problèmes ont commencé en 63 quand le Parti du Centre a remporté avec le Parti radical les élections. Donc, les deux, c'était le Parti radical qui était en opposition, mais il y avait beaucoup de ça. Donc, l'Union du Centre est rentrée en élection, puis c'est Georges Papandréou, qui était le président de ce parti-là, a voulu faire du ménage dans l'armée parce qu'il y avait beaucoup... ça commençait vraiment à frôler la dictature, il y avait beaucoup de corruption dans cette armée-là.
Ouais,
on est en 63.
63, ouais. OK.
Puis en 65, en fait, il veut réellement faire le ménage. Donc, il commence à prendre des mesures pour sortir des gens qui étaient assez menaçants. Puis, sous la pression de ces gens-là, je pourrais pas vous dire exactement les noms parce qu'il y en a beaucoup si on rentrerait vraiment dans les détails. Le roi Constantin II refuse, donc enlève quelques droits à Papandréou. Donc là, on voit que le climat politique est vraiment pas stable de 65 à 67. Puis c'est en 67 que le putsch a lieu, donc le 21 avril 67, le coup d'état des colonels avec Papadopoulos qui est à la tête de ce putsch-là. Sinon, il y a aussi Ioannidis, qui est un général qu'on voit dans le livre Un homme. Il y en a d'autres, là. Il y a Patakos, mais lui, on en entend moins parler un peu, là. C'était le général de brigade. On en entend moins parler dans le livre. Par contre, Papadopoulos, c'est ce pourquoi Panagoulis est le plus reconnu. En fait, Panagoulis a fait un attentat qui a échoué sur Papadopoulos. Donc.
Moi, je connais pas du tout la période dont tu me parles. Je connais pas l'histoire grecque. Et si je comprends bien, c'est un groupe de colonels qui a tenté de prendre le pouvoir en Grèce.
En fait, qui ont pas tenté, qui ont réussi
qui ont
à
pris.
Prendre le pouvoir. Ouais, okay.
C'est l'armée qui a pris le pouvoir en Grèce.
Ils ont même réussi à faire exiler le roi. Le roi s'est exilé à Rome, le roi Constantin II, qui était super jeune, c'est ça. Exactement, ils ont pris le contrôle, donc c'était rendu carrément du fascisme, là. Ils ont instauré une fausse politique pour simuler au monde entier qu'il y avait encore une action politique qui se déroulait, mais c'était complètement ridicule, en fait, là. C'était clairement une dictature. Donc, c'est la dictature des colonels, là, carrément.
Et le personnage, donc, Panagoulis, lui, il était contre ces gens-là?
Oui, en fait, Panagoulis a été dans l'Union du Centre avant de...
Ah, d'accord.
Ouais, c'est ça. Avant de devenir beaucoup plus radical, il a été dans l'Union du Centre, puis il s'est un peu détaché de ça. Puis justement, quand tout ce régime-là est entré en place, il a déserté, lui, pendant qu'il faisait la résistance. Donc, il a fait la résistance, puis il a déserté. Puis, il a, avec trois personnes, il a fait une qui sont pas nommées aussi dans le livre. Je pense que c'est pour un peu... éviter que ces gens-là aient eu des problèmes.
Ah, ouais.
Ouais. En fait, avec trois personnes, il a fait un attentat qui a échoué. Donc, il a fait une tentative de meurtre sur...
Comme le chef des colonels,
contre le dictateur, okay. Ouais, Papadopoulos. Donc, le 13 août 68, qui se résout par un échec, en fait, là. Il y a seulement qu'une bombe qui explose, puis à cause de négligence de la part de ses collègues, là. Donc, voilà. Puis, il se fait attraper de justesse, là. C'est... vraiment triste, puis ensuite suit les malheurs, donc il devient carrément un martyr international de ce régime-là, ouais. Évidemment, on n'en parle pas beaucoup dans les journaux, mais...
Donc, il aurait été emprisonné en 68, c'est ça?
Ouais, c'est en plein ça. En fait, le 13 août 68, il se fait exiler, en fait. Il se fait juger pour aller en prison, en fait. Puis le 3 novembre 68, il se fait condamner à mort par les tribunaux militaires.
OK.
Condamnation qui n'aura pas son terme, puisque Panagoulis faisait figure de martyr, puis s'il avait venant qu'à tuer, ça allait vraiment pas bien pour la Grèce à ce moment-là. Okay. Il se faisait un mauvais nom. Donc
il y avait déjà une bonne renommée, lui, dans la population, ouais, avant de commettre son attentat.
Puis ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'il a réussi à forger sa renommée, puisque il était vraiment victime de nombreuses tortures, donc c'est horrible, c'est abominable. Il en fait mention d'ailleurs dans le livre Un homme. La tactique qu'il a utilisée pour dénoncer publiquement, c'est lors des procès, quand c'était à son tour de parler, les procès, donc le procès, il n'y avait pas le choix de laisser quelques journalistes entrer, dont Oriana Fallaci, celle qui a écrit le livre, pour acheter le silence un peu. Puis okay. Lui, quand c'était à son tour de parler, même s'il n'avait pas le droit de le faire, dénonçait haut et fort tous les tortures qu'il avait subies. Même il arrive à exhiber quelques cicatrices à l'occasion. Puis évidemment, il se fait fermer le clapet assez rapidement. Puis c'est des tribunaux truqués, là, on le sait assez vite, là, donc il se fait condamner à mort. Puis là, justement, à cause de la pression qu'il réussit à s'en sortir. Mais lui, en fait, ce qui est triste dans ce livre-là, c'est qu'il sait pas, en fait. Puis à un moment, bon, là, tout la psychologie qui en découle, donc il accepte de mourir, même il veut mourir. Puis il devient d'ailleurs un peu fou, je vous en parlerai un peu plus tard, là. Puis donc il se fait interner, puis il se fait jamais dire que réellement il sera pas tué. Il se fait dire à tous les matins que ça va être aujourd'hui, que ça va être aujourd'hui. Ouais. C'est assez fou.
Puis, il était emprisonné combien de temps comme ça?
Il était emprisonné en tout et partout jusqu'en 74, en fait.
6 ans.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, il a réussi à s'évader quelques fois. Donc sa première évasion est le 5 juin 69. Il réussit à... En fait, il devient ami avec son geôlier, dans le fond. Puis son geôlier le comprend, puis il réussit à s'évader avec lui. Puis bon, ce qui est horrible, c'est qu'il réussit à rejoindre encore une petite bande de résistants avec qui il faisait affaire avant d'entrer en prison. Puis ces deux résistants-là, dont un qui est dans sa famille, le livre aux autorités. Donc, se fait ramener en prison, dans le fond, re-emprisonner. Puis il réussit à faire une autre... En fait... il est super malin, il est super intelligent,
rusé.
Rusé, très très rusé, exactement, c'est le mot. Puis il fait beaucoup d'autres tentatives d'évasion, dont une qui fonctionne presque. Donc avec une toilette, il réussit à creuser dans son mur, puis à flusher au fur et à mesure la terre, pas la terre, mais je dirais plus la chaux du mur qui gratte. Puis le Aziziki, donc le président de la prison, le l'attrape. Puis ce qui est horrible, c'est qu'ils lui font une cellule proprement pour lui, simplement pour lui, donc une cellule de 2 mètres de long puis d'1,50 m de haut, qui appelle la tombe. Donc il l'enferme dans cette cellule-là.
Puis durant tout ça, là, il y avait l'appui de la population pour lui?
Une partie de l'appui de la population, je vous dirais. En fait, on voit plus tard quand il réussit...
Qu'est-ce qui fait qu'il est libéré en 74?
C'est ça exactement, c'est que l'amnistie... se passe, en fait, c'est une fausse amnistie, je vous dirais. Ce qui arrive, c'est que le climat s'en vient vraiment entre les colonels, ça va pas bien, puis Ioannidis fait un autre coup d'état contre Papandréou, c'est ce que je vous parlais tantôt. Puis il s'en va dans le coin de Chypre, puis il envahit l'île de Chypre, mais ça dure pas longtemps, donc les Turcs s'en mêlent, puis reprennent complètement le territoire de Chypre. Puis là, ça va pas bien, donc ils sont obligés de faire appel à des anciens collègues qui ont exilé. Puis quand l'ancien collègue, c'est Constantin Karamanlis, revient, il revient sans aucune clause, donc il peut faire ce qu'il veut, il peut se permettre ce qu'il veut. Lui décide de terminer le régime de la dictature, puis de réinstaurer ce qui est d'une évidence capitale, une autre espèce de régime avec une fausse démocratie, puis des faux partis.
Attends un peu, qui ça?
C'est Karamanlis, donc celui qui est... On en parle brièvement dans le film, dans le livre, je veux dire, puisqu'on fait plutôt... on parle plutôt de Panagoulis. Mais c'est Karamanlis, c'est un ancien collègue qui était avec la dictature... qui œuvrait dans la dictature des colonels, okay, mais qui s'est fait exiler, qui a dû s'exiler à cause des tensions, justement, qui arrivaient. Donc, ils refont appel à lui à cause que les Turcs envahissent Chypre. puis celui-ci revient, puis il y a beaucoup de pouvoir, donc réussit à mettre,
colonels, ouais, réussit à mettre fin à sa propre dictature.
Ouais,
à lui.
C'est ça, exactement, okay. Mais je voudrais mieux déguiser. Puis là, c'est là qu'on voit que Panagoulis se fait libérer publiquement, mais Panagoulis refuse la libération.
Donc, en public, il refuse de vouloir se faire libérer.
Ouais, c'est vraiment une tête dure, là. Puis refuse publiquement de se faire libérer, mais finalement, il l'oblige, là, de... Il l'oblige à partir. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne œuvrer. C'est là, en fait, qu'il rencontre Oriana Fallaci, celle qui a écrit le livre...
Sa biographie, en fait.
En fait, on découvre dans le livre qu'il avait débuté d'écrire sa biographie, mais il a arrêté quand... il a arrêté quand il s'en venait dans les détails, donc à la torture ou ces choses-là. Puis on voit aussi que dans le livre, il commence à œuvrer en politique. Donc quand il sort de prison, il recommence à œuvrer dans le Parti du Centre. Puis finalement, il découvre que le Parti du Centre est carrément corrompu, réussit à se faire élire d'ailleurs dans le Parti du Centre. Puis il découvre que le Parti du Centre est corrompu. Donc tout le monde, c'est un peu le mouton noir. Tout le monde se tourne contre lui, puis lui aussi œuvre tout seul.
Puis... Tu disais dans le titre de ta présentation qu'il était un esclave au service de la Révolution. Qu'est-ce que tu voulais dire?
En fait, on voit dans la psychologie de cet homme-là qu'il a tellement donné pour la Révolution que ça l'a, que carrément la folie l'a emporté, puis qu'il lutte contre cette folie-là, puis qu'il devient carrément esclave de cette Révolution-là, qu'il sait plus pourquoi il a fait ça, il devient... désillusionné, complètement cynique vis-à-vis de la population de la Grèce, vis-à-vis de la population mondiale. Il y a une grosse réflexion sur les États-Unis, parce qu'on sait que les États-Unis cautionnaient aussi beaucoup...
le régime des colonies.
Ouais, c'est ça. Puis quand il est obligé de sortir de prison, donc celui qui se dit le sauveur, donc Averroff, puis celui qu'on a parlé, Karamanlis, sont vraiment deux arnaqueurs, puis il se fait menacer de mort constamment parce que lui découvre des documents qui sont compromettants pour ces gens-là. Puis
c'est comme s'il était embarqué dans une machine qui s'appelle la Révolution, qui arrivait jamais à son terme, parce que finalement le système, lui, est encore rompu.
Exactement. Puis il y a aussi les gens qui se détachent tranquillement, puis il est super radical aussi dans ses moyens, puis on voit qu'il fait quelques tentatives, carrément des actes terroristes, qui à un moment donné tuent deux civils, puis ça le rend complètement triste. Il est carrément, il devient esclave de lui-même puis de ses pulsions révolutionnaires, là. C'est clairement des pulsions, là. Il les contrôle plus. C'est vraiment triste, là, vraiment horrible. Puis il y a une pression insoutenable de la part du régime politique en place, là, qui était le sien au départ, là. Puis finalement, il devient inquiet pour sa propre vie, puis il sait qu'il va mourir. Puis, comme de fait, il se fait assassiner.
Il se fait assassiner, finalement?
En fait, il s'est fait assassiner en 76, le 1er mai 76, à 38 ans. C'est un assassinat dans un accident de voiture. Donc, il se faisait souvent pourchasser en voiture. Fallaci raconte, d'ailleurs, des anecdotes où elle était avec lui pendant des courses à voiture. Puis, c'est très à pic dans certains coins en Grèce où c'est vraiment facile de... Si on sort de la route, on meurt, puis il se fait assassiner par deux personnes, puis il y a beaucoup de témoins qui l'ont dit, mais les médias ont dû taire cet événement-là, malheureusement.
Mm-hmm. Puis après avoir lu cette histoire-là, ben avoir réfléchi sur... t'as fait une réflexion sur la Révolution? Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Il faut dire que si moi je me situe vis-à-vis de tout ça, je vis pas dans une position aussi... En fait,
extrême, dans un régime
aussi extrême, quoique c'est pas rose non plus, mais moi je pense que je suis un peu cynique vis-à-vis de tout ça, là, bien franchement, là. J'ai l'impression, en tout cas en ce qui concerne Panagoulis, je pense que c'est un exemple, c'est pas juste un martyr de la Révolution puis du système, là, c'est pas juste un martyr du système, mais c'est aussi un martyr de la Révolution parce qu'il s'est ramassé tout seul. Même s'il était hyper intelligent, hyper organisé, bien placé en politique, ça l'a même échoué, là. Fait que si Jésus, Gandhi puis Panagoulis ont échoué, je sais pas comment que ça va se passer.
la révolution est peut-être pas la bonne méthode pour changer le monde, finalement.
Ouais, en fait, je sais pas, la révolution sociale est peut-être difficile, plus qu'on le pense, là. Puis c'est ça, on voit que les gens, en fait... abandonne. C'est vraiment triste parce que Panagoulis, c'est quand même pas un... Il a beaucoup de pouvoir là, dans sa position, puis il y a une tribune aussi. Puis il n'arrive pas à avoir la vie de la population, ou du moins, il l'a quand il est mort. Tu sais, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans la rue quand il est mort, mais de son vivant, Falaschi en fait mention. Quand cet homme-là vivait, personne, ou presque personne, l'a épaulé réellement.
Ah, c'est ça.
Ouais. Donc.
Ben merci beaucoup Xavier.
Ça
nous donne une réflexion intéressante sur les travers de la vie de révolutionnaire.
Ouais, c'est ça.
On va faire une dernière pause avant la conclusion. Ça sera pas une pause musicale. Parce qu'en conclusion, je vais vous expliquer l'anniversaire qu'on fête aujourd'hui. Donc on va écouter l'extrait d'un film qui s'appelle V pour Vendetta.
Veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre.
C'est le cavalier d'urgence.
J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante d'un environnement familier et la quiétude de la répétition.
Pauvre con.
Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, associée la plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier et barbare, et fêtée par quelques jours de congé, j'ai pensé que nous pourrions commémorer ce 5 novembre, une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions.
Tu dois réfléchir.
Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans les téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route pour venir m'arrêter.
Le chancelier Suttler. C'est la merde.
Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés, à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel.
Monsieur, vous vouliez un studio à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville.
Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission.
Il nous faut des caméras.
Comment en sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Suttler. Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix. Et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile.
Inspecteur, ils ont presque fini.
La nuit dernière, j'ai cherché à rompre ce silence. La nuit dernière, j'ai fait exploser le Old Bailey pour que ce pays se souvienne de ce qu'il a oublié. Il y a plus de 400 ans, un citoyen remarquable a voulu graver à jamais la date du 5 novembre dans nos mémoires. Son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date du 5 novembre. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre un 5 novembre que ni le monde ni eux ne pourront oublier.
Alors voilà, c'était l'extrait du film qu'on vient d'écouter. C'est inspiré d'un événement survenu le 5 novembre 1605. Souviens-toi du 5 novembre 1605. Le 5 novembre 1605, Guy Fawkes a tenté de faire exploser la Chambre des Lords au palais de Westminster afin de se débarrasser du roi Jacques Ier. Alors, il faut replacer l'événement dans le contexte des guerres de religion où catholiques et protestants s'affrontaient en Angleterre. Guy Fawkes était un catholique qui subissait évidemment l'exclusion et l'intolérance de la part du pouvoir protestant. Il avait réussi à installer, sous la chambre des Lords, 36 barils d'explosifs, soit 1800 livres d'explosifs, dans le but de se débarrasser d'un seul coup de tous les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire de faire sauter tous les membres du Parlement en même temps. Il s'est fait arrêter au moment où il tentait d'allumer les barils de poudre la nuit du 5 novembre. Donc, il a échoué. Il a été arrêté et, comme il était de coutume à l'époque, il a été pendu, éventré et écartelé. Depuis sa mort, les Anglais fêtent, même encore aujourd'hui, tous les 5 novembre, ce qu'on appelle le Guy Fawkes Night. Ça, c'est pour célébrer leur victoire. Et ils organisent des feux d'artifice pour se moquer de l'explosion ratée du palais de Westminster. Là où l'histoire devient intéressante, c'est que le personnage de Guy Fawkes a inspiré des auteurs d'une bande dessinée au début des années 90. La bande dessinée s'appelle V for Vendetta. Et leur personnage principal, c'est un anarchiste anglais dans les années 80 qui lutte contre le parti fasciste au pouvoir dans le pays. Et ce personnage-là, anarchiste, porte un masque reproduisant les traits du visage de Guy Fawkes. Ce masque a été repris en 2006 au cinéma dans le film V for Vendetta, dont on vient d'entendre un extrait tout à l'heure. Ce film-là a connu un tel succès que, depuis la sortie du film, le groupe de hackers Anonymous s'est emparé du masque pour se forger leur propre identité. Or donc, tout ça pour vous dire que le masque qui symbolise Anonymous, que vous connaissez certainement et que de plus en plus de gens portent dans les manifestations, ben en fait, c'est Guy Fawkes, qui est un révolutionnaire catholique qui a tenté de faire exploser la Chambre des Lords, autrement dit, de se débarrasser de tous les politiciens en même temps. Alors voilà, bon 5 novembre tout le monde. On se reparle le mois prochain. On va parler donc de progrès et de croissance. Avant de vous laisser, je vais faire des remerciements. Je remercie Gab Paquette pour la composition de la musique thème de l'émission. Merci à David, le propriétaire de cette charmante librairie où nous enregistrons l'émission. Merci à tous mes invités ce mois-ci, Anne-Julie, Alex, Xavier et Claude Antard, que vous pourrez entendre le 23 novembre prochain à 19h30 lors de la soirée de poésie. Mille merci à notre technicien, Anaël, à la mise en onde. Et enfin, merci à Bicnic, sans qui rien ne serait possible, car c'est lui qui nous héberge sur son site web. Bonne fin de soirée à l'antenne de Radio Fiat Lux. Tout de suite après notre émission, il va y avoir une lecture de David, le libraire. Il va vous lire Le Forgeron de Rimbaud. Bonsoir.